Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Lemeur, en effet, je suis le directeur de DR Lab. Et je vais vous parler de technique aujourd'hui, mais sans rentrer trop dans les détails qui pourraient vous perturber. Donc, restez global. Donc, qu'est-ce que DR Lab ? Le DR Lab, c'est un laboratoire de développement sous forme d'une association. Donc, nous faisons ce que nos membres nous demandent. Le focus de l'association, c'est l'édition numérique et la partie vraiment technique de l'édition numérique. Nous avons 60 membres à travers le monde, et dont là, j'ai listé les membres qui sont dans le domaine de la, enfin, qui sont des bibliothèques ou des associations de bibliothèques. Donc en particulier Réseau Carrel, BNF, et puis vous voyez une série de librairies, enfin de bibliothèques, pardon, de différents pays. Vous voyez d'ailleurs dans cette liste que certaines sont des bibliothèques spécialisées dans le domaine de l'accessibilité, donc spécialisées pour les personnes aveugles ou dyslexiques. On a d'ailleurs créé un groupe de travail spécial pour les membres des bibliothèques, les représentants des bibliothèques, pour discuter au sein de DR Lab de leurs problèmes propres. EDR Lab a des activités diverses mais complètement interconnectées. Donc, on travaille sur les standards ouverts, donc par exemple EPUB, on travaille sur le logiciel libre dans le domaine de la lecture numérique. Donc ça, on travaille pour la Fondation Iridium, on fournit du logiciel à la Fondation Iridium. On travaille sur l'accessibilité des standards et des logiciels, et on travaille sur la protection donc avec cette DRM LCP qui elle-même cherche à être le plus libre possible, le plus ouverte possible et le plus accessible possible. Puis au milieu, on fait la promotion de tout ça grâce à des conférences annuelles qu'on appelle le Digital Publishing Summit, qui cette année ont eu lieu de manière complètement virtuelle, malheureusement. Donc pas mal d'activités, mais on est obligé de tout faire, un peu tout mener en parallèle, puisque tout est totalement lié. On a des partenaires à travers le monde. On n'est pas tout seul. On a donc la Fondation Iridium qui s'occupe de logiciels libres. On est membre du W3C pour s'occuper de standards. C'est le W3C aujourd'hui, donc les gens qui ont, enfin l'association en fait, qui a travaillé sur le web, qui a créé HTML, qui a créé tout ce qui aujourd'hui fait le web et qui continue. Donc c'est cette association qui s'occupe de EPUB, de l'évolution du format EPUB. Donc on travaille à l'intérieur du W3C sur EPUB et sur un autre standard à venir, donc le standard des livres audio. On travaille aussi avec le consortium DESI qui s'occupe d'accessibilité, de logiciels accessibles, de standards d'accessibilité. On travaille dans l'industrie avec le BISG aux USA qui est une association aussi d'éditeurs, enfin du monde de l'édition et qui s'occupe également de problématiques techniques. Et on travaille au Japon avec l'Advanced Publishing Laboratory, donc traduit en anglais, qui est un peu notre équivalent japonais. Voilà, donc je vais lister un petit peu d'abord les technologies qui sont nécessaires au prêt numérique. D'abord, il nous faut des formats standards. Alors, des formats standards, on a le PDF, le vieux PDF, comme disait tout à l'heure Adrien, ça n'est pas le bon standard. Enfin, n'empêche que c'est un standard, il a été créé par Adobe, mais maintenant c'est un format ISO. Donc ISO, c'est l'Organisation Internationale des Standards. Donc ça donne des documents prépaginés, donc ils ne sont pas fluides, ils ne s'adaptent pas du tout au type d'écran, donc on ne peut pas lire un PDF correctement, vous le savez très bien, sur un smartphone. Ils sont très peu accessibles, donc on considère en effet que c'est un format obsolète, encore présent dans les bibliothèques. Donc vous avez des fonds, on va essayer d'en tirer parti. Il y a l'EPUB 3.2, c'est la version actuelle, donc contrôlée par le W3C. Ça permet d'avoir des documents soit fluides, donc tout à fait adaptés au smartphone par exemple, soit prépaginés, donc adaptés à des écrans plus grands, ou pour du livre où la pagination a vraiment une grosse importance. Ça permet d'avoir des livres accessibles, et ça permet d'y placer des enrichissements. Alors il ne faut pas assimiler EPUB 3 à enrichissement, vidéo, JavaScript, animation, tout ça, c'est pas obligé. EPUB 3 est le moyen d'aller jusqu'au bout des possibles, mais on peut très bien faire du livre très simple en EPUB 3, et c'est même très conseillé. Ensuite, on a besoin d'un format pour les livres audio. Donc, comme Véronique le disait, jusqu'ici, dans PNB, on peut écouter un livre audio uniquement en ligne. On ne peut pas le télécharger. Le W3C a créé un format pour les livres audio. adapté par Ridium dans les logiciels Ridium, sous une forme très légèrement différente, mais donc un format pour les livres audio qui permet, par rapport à ce qu'on connaît dans le commerce, sur CD-ROM, d'avoir un des métadonnées propres, quel est l'auteur, quel est le narrateur, etc., etc., quelle date, enfin, exactement les mêmes métadonnées que pour un livre, pour un e-book, et une table des matières, la même table des matières que pour un e-book. Et donc, on peut maintenant avoir des livres audio qui ont une table des matières qui n'est pas uniquement séquentielle, une bête liste de chapitres, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des sections, on peut pointer vers des éléments très précis à l'intérieur du livre audio. Ce format permet de consulter des livres audio en ligne ou de les télécharger hors ligne et permet aussi de les protéger par la DRM LCP. Donc on peut vraiment avoir le même écosystème de prêt pour les livres audio que celui qu'on a aujourd'hui pour les livres, en particulier les livres en EPUB 3. Et enfin, on est en train d'incuber à EDR Lab, donc Véronique en a parlé très rapidement, un format pour les BD, les comics américains, les mangas et les webtoons, donc tous les styles de narration visuelle. On appelle ça le format Divina. Il est en cours de... Alors, quand je dis incubé, donc EDR Lab, donc les membres de EDR Lab travaillent autour de spécifications et les membres d'EDR Lab qui travaillent dans Ridium travaille à son implémentation dans les systèmes de lecture. Et on est en cheville avec une petite société qui travaille sur des systèmes d'autoring pour créer ce format. Bon, quel est l'intérêt de ce format par rapport à la bande dessinée qu'on peut avoir dans de l'EPUB, puisqu'on peut déjà avoir de la bande dessinée en EPUB? Le premier, c'est qu'on peut faire tous les styles de narration visuelle, y compris du webtoon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le webtoon, on peut appeler ça la bande défilée. C'est une gigantesque série d'images, les unes sous les autres, qu'on fait défiler sur un smartphone et qui raconte une histoire sans rupture entre images. Donc on est très loin de la planche. Donc Divina permet de faire du webtoon, Divina permet de faire de tous les styles de narration visuelle numérique, comme du turbomédia, c'est-à-dire des pages qui se suivent, bon, en gros un PowerPoint amélioré, mais avec tous les styles d'animation qu'on peut imaginer, y compris des animations vidéo. Pareil, métadonnées, table des matières, calque, on peut faire énormément de choses avec ça qu'on ne peut pas faire avec l'EPUB, qui ne peut représenter que de la bande dessinée en page relativement classique. Donc on travaille en parallèle sur tous ces formats, enfin, sauf PDF. Et donc, au niveau de Divina, une petite précision, on a travaillé donc sur Divina depuis maintenant 2 ans et demi à peu près. L'année dernière, Hachette, donc une filiale d'Hachette qui s'appelle Pika Édition, nous a suivis pour faire le premier Divina, alors non commercial, c'était un teaser, sous forme d'un manga. Alors manga parce qu'il se lisait de droite à gauche, puis c'était le style manga. Et on l'a implémenté sur nos smartphones Android. Donc, dès l'année dernière, on avait un lecteur Divina sur les smartphones Android qu'on est en train de porter maintenant sur les logiciels Ridium iOS et les logiciels Ridium pour Mac, Windows et Linux, dont je vais parler plus précisément très bientôt. Alors, dernière petite chose sur la BD numérique. En général, en France, on prête pas énormément de BD. Enfin, c'est pas un énorme marché, ni du prêt ni de la vente. Il faut voir qu'aux USA, c'est un gros marché, 100 millions de dollars. Au Corée, c'est un très gros marché, 700 millions de dollars. Et au Japon, c'est un énorme marché sur le manga avec 1 milliard et quelques. Tout ça en expansion dans le monde, et ça arrive vers nous, là. On est en train de pousser aussi ce format pour pousser les éditeurs français et européens à faire plus de bandes dessinées numériques pour avoir une production qui puisse résister un petit peu à ce qui nous attend du côté de la Corée et du Japon. Donc, on a besoin de formats, mais on a besoin aussi de logiciels de lecture et donc de moteurs de lecture. Alors, un moteur de lecture, c'est quoi ? C'est comme dans une voiture, on n'a pas la carrosserie autour et on laisse les gens faire la carrosserie, mais on a un moteur qui est interopérable, c'est-à-dire que c'est le même moteur pour tout le monde. Donc, on essaye de faire de l'industrie, d'une certaine manière. Et on veut un moteur de lecture qui marche sur smartphone, sur PC et Mac, et sur le web. Et on veut un moteur de lecture qui marche pour des e-books, des audiobooks et donc des narrations visuelles. Et tout ça c'est le travail de la Fondation Ridium, enfin le travail qu'on mène au sein de la Fondation Ridium, de fabriquer quelque chose qui réponde à cette matrice. Donc c'est très compliqué, bien sûr, ça prend du temps, ça s'améliore. Il y a des choses vraiment qui sont utilisées en production, comme Adrien le disait tout à l'heure, donc par exemple par DeMarc au Canada. C'est aujourd'hui utilisé, cette génération-là de logiciels utilisés dans plus de 22 logiciels de lecture à travers le monde déjà, et puis c'est, tous les mois il y en a de nouveaux. Mais c'est un travail qui continue et qui devra continuer encore pendant un an ou deux jusqu'à arriver à maturité réelle. Alors bien sûr, oui, on a aussi besoin d'une DRM facile à utiliser. On s'écarte des DRM propriétaires verticales du genre de celle d'Amazon. On s'écarte des DRM propriétaires du type Adobe. Donc tout le monde parmi vous a subi la DRM Adobe. Et donc on a créé cette DRM LCP. Je pense que Véronique en a parlé pas mal tout à l'heure, en bien, merci Véronique. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que cette DRM LCP est non seulement donc facile à utiliser, fiable, peu onéreuse, mais aussi c'est un standard, c'est en train de devenir un standard ISO, une spécification technique ISO. Le document va sortir d'ici la fin de l'année, donc il est fini, là, il est prêt à publier. Donc on a enfin une DRM non propriétaire, non-invasive, accessible, alors une DRM ne peut pas être accessible elle-même, mais ne bloquant pas l'accessibilité, et standard. Enfin, on a besoin aussi d'exposer des catalogues et les prêts individuels des personnes. Donc, vos catalogues, ceux qui apparaissent dans les portails, il faudrait, à notre avis, être également, les exposer également au sein des applications de lecture. Du type Baobab ou toutes les applications de lecture. Donc ça se fait au moyen de données structurées, pas de pages HTML cette fois-ci, avec des listes de publications, donc des listes d'e-books ou d'audiobooks, chacun présent avec sa couverture, ses métadonnées pour faire des fiches à l'intérieur des applications. Il faudrait avoir un moyen d'effectuer un prêt ou un achat en ligne, si possible. Il faudrait un moyen de s'authentifier au sein de l'application auprès d'une bibliothèque, par exemple, pour accéder à ses prêts personnels. Il faudra un lien de téléchargement pour télécharger ce qu'on a emprunté directement depuis l'application, sans passer par le portail, on télécharge depuis le portail web et ensuite on importe dans une application. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a envie de faire, et les solutions existent pour ça. On a ce qu'on appelle les flux OPDS, qui permettent d'avoir des listes, des catalogues en ligne, sous forme d'API, donc sous forme de données structurées, non pas sous forme de pages HTML. Et donc ça rentre très bien dans les applications de lecture, et les applications Iridium supportent ça. Alors c'est OPDS, il est développé par une petite communauté internationale, ça n'est pas un standard international, c'est plutôt un petit standard de fait, mais qui se développe. Et puis là aussi, Véronique en a parlé, on a ce nouveau protocole API App qui apparaît, mais qui est fait par Dilicom, donc qui apparaît en France, qui est national, et qui permet d'accéder après authentification à la petite liste de prêts qu'un utilisateur a effectué. Donc les deux sont tout à fait complémentaires, et on va essayer d'ailleurs de travailler un peu plus à les faire merger. Donc Thorium, je vais passer sur Thorium. Thorium Reader, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de lecture grand public et générique, éditée par ADR Lab, qui marche sur Windows, Mac et Linux. Elle est gratuite, elle est accessible, on travaille beaucoup avec Desi pour ça. C'est du logiciel libre, quelqu'un peut le modifier. Ça lit des EPUB 3, ça lit des livres audio, ça lit des BD, et ça lit bientôt du PDF. Donc ça lit déjà aujourd'hui un petit peu le PDF. Ça supporte LCP, et ça supporte les flux OPDS. Il ne lui manque plus que API App pour être totalement parfait. Alors j'ai mis quelques, je ne pouvais pas vous faire une démo, j'ai mis quelques écrans. Donc c'est une appli qui marche très, de la même manière sur Windows et Mac. On voit ce qu'on a importé dedans, ce qu'on est en train de lire. Donc ça c'est la home. On voit la liste des livres, comme si on était sur un portail bibliothèque. On peut chercher à l'intérieur des livres par leur titre et auteur. On peut choisir son langage, sa langue. On a plein de langues déjà, et il y en a à chaque sortie, on a de nouvelles langues. Quand on lit un livre, on lit sur un écran assez grand, un écran de PC. Donc on a un peu plus de place pour lire. On peut travailler sur une lecture en deux pages. On peut lire du prépaginé. Donc là, c'était un guide d'installation avec plein de JavaScript, plein d'animations, et ça marche très bien. On peut lire des livres audio. Et quand on lit un livre audio, ben on a une page qui s'ouvre, un peu similaire à celle d'un livre. Et par contre, par rapport à un livre audio sur CD-ROM, on a une table des matières qui permet de naviguer là-dedans. Donc, on commence à assimiler un petit peu livre à livre audio. Et je voulais terminer par dire, et maintenant, alors qu'est-ce qui nous manque ? On a toutes les technologies sont là pour faire quelque chose de parfait pour les utilisateurs en bibliothèque. Mais il nous manque, à mon avis, une petite couche d'ergonomie encore, une petite couche d'utilisabilité totale. Donc, on a des choses qui sont déjà fonctionnelles, qui sont déjà accessibles, qui sont déjà utilisables, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve qu'encore, entre les portails et les applications de lecture, il nous manque un petit côté intuitif, voire persuasif. Donc maintenant, il va falloir travailler là-dessus. Des meilleures intégrations des applications de lecture et de ce que vous avez, de ce que vous exposez dans les bibliothèques. Et donc, par exemple, depuis le site web, depuis le portail, ce qu'on aimerait, c'est juste faire une recherche, une sélection, un emprunt, ok, et puis avoir un choix entre deux actions. J'ouvre le livre que je veux lire directement sur le portail et j'ai une lecture en ligne. Ou je choisis de le télécharger et de l'importer dans une application générique. Donc ça, c'est deux choix qui existent déjà à peu près sur pas mal de portails, sauf que je vois encore des téléchargements d'un petit fichier qui s'appelle ACSM qui arrive, donc la licence Adobe. Et ces trucs-là, les utilisateurs sont toujours gênés avec cette petite chose. Donc il faudrait mieux créer un téléchargement d'EPUB qui rentre dans une application. Et puis, quand on est dans une application de lecture, on veut faire une recherche, sélection, emprunt, ouvrir et lire. On ne veut rien d'autre. Et comme on est authentifié, ça devrait suffire. Donc, là, il manque cette petite couche et j'espère qu'on l'obtiendra bientôt, dans l'année. Voilà. Ah oui, donc dernière petite chose, oui, vous parliez de liseuses. Donc il y en a une aujourd'hui qui est compatible LCP, qui est sur le marché français, c'est la Bookin Diva HD. Vivlio, elle n'est pas encore sortie compatible LCP, donc on les pousse. Kobo, on les pousse. Il n'y a pas 36 000 marques de liseuses en France, hein, mais c'est aussi en provoquant l'usage de cette DRM qu'on poussera les fabricants de liseuses à rajouter le petit bout de logiciel qui permet de lire du LCP.
Merci beaucoup, Laurent. Toutes ces innovations techniques vont dans le sens d'une meilleure utilisation lecteur. Ça leur fait plaisir et ça fera plaisir aussi à tous les bibliothécaires qui tiennent des lignes rouges pour aider les lecteurs, je pense. Merci encore.